Décryptage, Marie Cazadebé.
Les cyberattaques informatiques coûtent de plus en plus cher aux entreprises. La facture pour les sociétés victimes a augmenté de 27% en un an, de 72% en 5 ans. Et à en croire toujours l'étude internationale du cabinet Accenture Security, publiée cette semaine, cette facture pourrait encore s'alourdir dans les années à venir. La France, avec les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, fait partie des pays les plus visés. Alors pour quelles raisons toutes les entreprises ont-elles conscience du risque de cyberattaques? Peut-on vraiment s'en prémunir? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Julie Gomme.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes experte en cybersécurité, vous conseillez des entreprises privées. Nous sommes aussi en ligne avec Nicolas Arpagian. Bonsoir.
Bonsoir.
Auteur de « La cybersécurité » aux presses universitaires de France. Alors on apprend dans cette étude apparue donc cette semaine qu'en France, la facture d'une cyberattaque coûte en moyenne 8,6 millions d'euros à une entreprise ciblée. Un chiffre qui donc aurait explosé en quelques années. Pour quelles raisons d'abord Julie Gomme, est-ce que les cyberattaques sont plus perfectionnées et donc plus dévastatrices pour les entreprises?
Alors, je pense qu'il y a de plus en plus de portes ouvertes, surtout laissées aux attaquants dans les entreprises. Ça, c'est une première chose, parce que la sécurité est de plus en plus remplacée par la conformité. C'est-à-dire, par exemple, on gère pas bien ces mises à jour de sécurité. On dit qu'on fait des mises à jour de sécurité, mais on les fait parfois au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Et pendant cette période-là, l'attaquant, il connaît les vulnérabilités. Il peut s'en saisir pour attaquer. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, ça va être aussi le fait que on n'investit pas parfois dans le bon sens au niveau de la formation, de la prévention et de l'avant attaque. On nous demande toujours qu'est-ce que c'est que le ROI de la sécurité, le retour sur investissement, parce que les entreprises nous disent voilà, on va mettre de l'argent sur la table, mais finalement ça sert pas à grand chose. Ben si, ça sert à ne pas se faire attaquer, et c'est quand on se fait attaquer qu'on comprend que finalement il aurait mieux valu mettre de la formation et mettre tout ce qu'il faut en termes de mesures de sécurité en avant sur son entreprise.
Un problème de prise de conscience. Et Nicolas Arpagian, est-ce qu'on peut dire que les cyberdélinquants en profitent aussi pour mettre en place des attaques de plus en plus difficiles à éviter?
Alors, de toute façon, ces chiffres progressent pour deux raisons. La première, c'est que l'intensification du numérique dans les organisations fait effectivement qu'on va augmenter d'autant la surface d'attaque. Donc ça, c'est la première explication à cette majoration du coût des cyberattaques. Deuxième chose, en fait, on arrive maintenant à mettre un chiffre au regard de ces cyberattaques. Pourquoi ? Parce que on investigue, on recherche, on essaye d'évaluer. Et puis, dans un certain nombre de cas, dans le cas notamment en cas de perte ou de vol de données personnelles, si des entreprises sont cotées, il y a des obligations de publication. Donc c'est vrai que ça oblige les entreprises à faire l'exercice d'introspection, d'évaluation et de chiffrage d'une part de la perte, parce que les chiffres que vous avez mentionnés, il faut les comprendre comme étant le coût de la perte d'activité éventuellement liée à la cyberattaque, mais également de la remédiation, c'est-à-dire comment faire pour réparer et autant que possible revenir à une situation normale. Donc ça explique que ces chiffres qu'on ne mesurait pas tant jusqu'à présent, soit dès lors qu'on s'y intéresse, en croissance.
Alors le cabinet Accenture effectivement détaille un peu ses frais. Donc il y a le recours à des sociétés spécialisées quand il y a une attaque, la réparation des dégâts, on l'a dit, les frais liés à l'interruption des services de l'entreprise aussi, qui sont l'entreprise attaquée. Tout cela paraît assez logique. On lit aussi que ce calcul prend en compte les coûts engagés pour soigner une réputation abîmée. Julie Gomme, c'est ça aussi les dégâts d'une cyberattaque. Ça montre bien qu'une entreprise est fragile.
Dans les analyses de risque, on prend en compte aussi le risque d'image et qui grandit aujourd'hui aussi avec la GDPR sur les données personnelles, puisqu'aujourd'hui on doit informer.
C'est le nouveau règlement européen.
Le nouveau règlement européen, sur la protection des données. On doit informer les personnes qui sont victimes de cette fuite ou de ce vol de données, dont les données personnelles ont été partagées ou dérobées. Et là, il y a un vrai souci. Sur l'image. Autant à une époque, les attaques, ça restait un peu de côté, on informait que la police, on informait que des spécialistes, il y a eu de plus en plus de médiatisation, et c'est très bien. On l'a vu avec Mirai, on l'a vu avec WannaCry. Aujourd'hui, il y a beaucoup de publications en lien avec ces attaques, et c'est une très bonne chose. Ça aide à acculturer les gens sur le sujet cybersécurité. Mais il y a un vrai problème d'image aujourd'hui qui est lié justement à cette médiatisation qui va crescendo.
Nicolas Arpagion, est-ce qu'on a déjà vu des entreprises justement pâtir de l'image d'une attaque? Je pense par exemple à la plateforme Uber qui s'était vue voler en fin 2016 énormément de données personnelles, ou Facebook qui est souvent attaqué également. Est-ce qu'on voit finalement les conséquences aussi sur les affaires de ces entreprises?
Alors, la relation numérique se fait de plus en plus sur le fondement de la confiance. Est-ce que l'entreprise me dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit? C'est-à-dire lorsque... le problème avec Facebook est à la fois un exemple et un contre-exemple. Facebook est un exemple d'entreprise qui a été pris un certain nombre de fois la main dans le sac avec des dysfonctionnements, que ce soit par exemple encore il y a quelques jours concernant la disponibilité de mots de passe disponibles en clair sur des bases de données, c'est-à-dire donc qui n'était pas chiffré, c'est clairement une action défaillante de sa part. Dès lors qu'il y a eu l'affaire Cambridge Analytica, c'est-à-dire la vente, la revente d'informations à des fins politiques, c'est une défaillance de sa part. Donc à chaque fois, on voit que l'image est égratignée, et c'est pour ça que je dis que c'est un contre-exemple, puisque pour l'instant, ça ne se traduit pas de manière chiffrée dans une baisse, un abandon, un désamour à l'encontre d'une entreprise. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans l'affection, dans la considération, dans l'attachement à une entreprise, le fait qu'on va être amené à lui donner des informations, à faire en sorte de lui être fidèle, c'est-à-dire de rester un consommateur attentif et voir éventuellement dans l'image de marque, c'est-à-dire la capacité à attirer des candidats qui pourraient s'estimer valorisés de rejoindre les rangs de ces entreprises, ça fait partie de ce tableau un peu composite qui est la relation de confiance à l'ère numérique dès lors que la communication, l'échange se fait de manière dématérialisée avec un téléphone ou avec une tablette.
Julie Gaume, est-ce que les clients sont protégés aussi par la loi? Est-ce qu'une entreprise peut être sanctionnée pour ne pas avoir suffisamment protégé ses données, par exemple, ou même ses produits?
Alors, il y a des précédents. La CNIL, justement, sanctionne de plus en plus des entreprises qui, non seulement qui ont un défaut de protection de ces données-là, et qui, en plus, savaient qu'il y avait un défaut de protection
la
et n'ont rien fait.
C'est le gendarme français du numérique.
C'est la Commission nationale donc informatique et liberté. Et aujourd'hui, avec donc la GDPR, ce texte européen qui protège les données personnelles des Européens et qui encadre au niveau légal un certain nombre de choses, ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires international de l'entreprise. Donc, quand on est dans un très grand groupe, ça peut coûter très très cher. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de prises de conscience, notamment grâce à l'arrivée de la GDPR.
Alors, le risque de cyberattaque concerne toutes les régions du monde, toutes les tailles d'entreprises aussi. Alors, selon un cabinet kényan, ces attaques ont coûté 2,9 milliards d'euros au continent africain l'année dernière. Moussa Bakayoko, expert indépendant sécurité informatique basé en Côte d'Ivoire, n'est pas étonné. Il constate un retard de la prise de conscience des risques.
Des entités à l'intérieur desquelles vous arrivez, il n'y a même pas de système de management de sécurité de l'information. Il n'y a aucune fonction du RSSI, du responsable sécurité de l'information, qui est mise en place. La direction générale ne sait pas ce que c'est, ce qui est très grave. Aucun usage des bonnes pratiques en fait existantes, rien, absolument rien.
Gilles Gomes, est-ce qu'on peut dire vraiment que toutes les entreprises, de n'importe quelle taille, peuvent être la cible d'une attaque? On ne parle pas là que des grands groupes sensibles avec des marchandises très rares.
Ah oui, même des toutes petites entreprises vont avoir des réflexes. Par exemple, faire un site internet à une entreprise de communication assez classique. Sauf que les gens qui vont faire leur site internet, c'est des communicants, c'est des designers, c'est des graphistes qui font très bien leur boulot, mais qui n'intègrent pas la sécurité dans le développement de ce site. Et on va se retrouver avec des sites internet qui sont des gruyères, pour peu qu'il y ait du paiement en ligne, par exemple, pour peu qu'il y ait des comptes qui ont une valeur ajoutée, parce que ça va être du membership, etc., vous allez avoir facilement des attaques qui vont se diriger sur ces sites-là, et parfois même sans vraiment les cibler, eux. Par exemple, on a eu le cas après les attentats de Charlie Hebdo, des Anonymous français sont mis à attaquer des sites en langue arabe. La réponse du berger à la bergère a été que des hackers arabisants ont attaqué des sites en français. Ils ont fait tourner des scans sur un peu tout ce qu'ils trouvaient sur internet, et on s'est retrouvé avec des attaques sur des sites de camping, sur des sites de mairie de village. Donc ils voulaient pas cibler les campings.
Des victimes collatérales, on va dire.
Des victimes collatérales, mais c'était la plupart des sites de toutes petites entreprises ou de toutes petites villes qui n'avaient pas mis les moyens pour la sécurité, parce qu'elles n'en ont pas les moyens.
Les objectifs maintenant, Gélégaume, de ces cyberdélinquants, est-ce qu'on peut lister les principales motivations? Elles sont nombreuses, ces motivations.
Alors oui, vous avez plusieurs profils. Alors vous avez le costaud qui va faire de l'espionnage économique, donc aller attaquer des grandes entreprises, de la R&D, des attaques préparées à l'avance, qui vont coûter assez cher, qui va exfiltrer des données et les transmettre aux entreprises concurrentes en les vendant très cher. On peut avoir l'adolescent qui veut frimer devant ses copains ou devant les filles et va trouver des petites vulnérabilités, voilà, dans des sites de PME ou de camping pour pouvoir afficher son nom en gros sur le site et faire le beau devant ses copains. Donc là, on est vraiment à l'autre bout du spectre. Mmh. On va avoir des gens qui sont un peu bons techniquement et qui vont se dire, bah voilà, je vais aller voler des données aussi parce que ça m'intéresse, des numéros de carte bleue, etc., ce qu'on va revendre sur le dark web. Donc voilà, on a un peu trois types de profils comme ça d'attaquants qui ont des motivations totalement différentes.
Nicolas Arpagian, est-ce qu'il faut avoir des compétences et des moyens exceptionnels pour mener une cyberattaque?
Non, parce que en fait, on est dans un monde qui est extrêmement libéral, c'est-à-dire que vous avez des places de marché. Alors, soit pour acquérir des informations qui ont déjà été piratées par quelqu'un, donc là, vous ne faites juste que les acheter. Sinon, vous avez la mise à disposition d'outils de piratage, alors qui peuvent être soit, par exemple, pour bloquer un site internet, on parle alors de déni de service, soit éventuellement pour espionner un téléphone portable de manière à récupérer les éléments de géolocalisation, les codes d'accès au système de messagerie, et l'intégralité des SMS et des sites visités par le téléphone en question. Donc en fait, on a des outils qui, et c'est pour ça que je dis qu'on est dans une offre libérale, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une demande de consommateurs, alors qu'ils peuvent être des entreprises ou des particuliers, et ben effectivement, vous avez une concurrence des produits qui fait qu'ils deviennent de plus en plus accessibles techniquement, c'est-à-dire qu'à manipuler, ils ne demandent aucune compétence technique, et les prix sont à la baisse parce que effectivement, il faut bien que les offres se démarquent les unes des autres. Donc on a une vraie consommation des outils d'attaque et c'est la raison pour laquelle on voit des gens qui peuvent être des particuliers, voire des entreprises, qui se mettent à conduire ce type d'opération parce que elles ont besoin de résoudre un problème ou elles ont un contentieux avec quelqu'un et ça devient, elles ne sont pas celles qui ont conçu l'outil offensif, mais elles vont en être l'exploitant ou le bénéficiaire.
Un exemple de cyberattaque, un autre, celui qui a touché la chaîne de télévision française TV5 Monde, c'était les 8 et 9 avril 2015. Tous les programmes avaient été interrompus. Écoutez Yves Bigot, directeur général de la télévision, donc à l'époque, en 2015.
Depuis environ 22 heures, l'ensemble de nos chaînes donc, ont été victimes d'une cyberattaque extrêmement puissante. Nous ne pouvons plus émettre aucune de nos 11 chaînes dans le monde, donc écran noir sur tous les écrans TV5 Monde. Et nous avons perdu la maîtrise de nos sites internet et de nos réseaux sociaux. On est tous mobilisés, toutes nos équipes techniques. On a évidemment des techniciens partenaires, spécialistes. Parce que ce qu'il y a de pire pour des chaînes de télévision, c'est d'avoir un écran noir. C'est la même chose que si vous aviez des blancs antennes sur votre radio.
Gélégaume, TV5 Monde avait été victime de phishing. Alors, selon un sondage réalisé par le Club des experts de la sécurité de l'information du numérique, les entreprises sont avant tout victimes de phishing. Je lisais, c'était quasiment 60% des attaques. Est-ce que vous sauriez nous expliquer simplement en quoi ça consiste?
Alors, c'est ce qu'on appelle le social engineering, l'ingénierie sociale. Ça fait partie de ce type d'attaque où on va envoyer par mail un message à une personne en lui disant, bah voilà, j'ai des photos à te montrer. Clique là, rentre ton mot de passe, ton code, et puis hop, on va dérober des comptes. Il y a une attaque comme ça qui s'est passée dans un ministère il y a quelques années, qui était très 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 forte. Un groupe de 4-5 personnes qui travaillaient au cabinet du ministre. L'un de ses membres n'avait pas de compte Facebook. Qu'a fait l'attaquant? Il a créé un compte, il s'est amusé à rajouter des gens petit à petit. Il a rajouté les fameux collègues. Alors, son compte était au nom de celui qui n'avait pas de compte Facebook. Donc les collègues l'ont rajouté en se disant bah tiens, c'est notre collègue. Puis au bout de quelques temps, il a envoyé un message par chat à ses fameux pseudo collègues en leur disant ah bah tiens, regarde la messagerie, ils nous ont changé la messagerie, regarde comme elle est moche. Il envoie un lien vers un site qu'il avait lui-même créé, qui avait l'air d'une messagerie. Donc, qu'est-ce qu'on fait ces gens-là qui travaillaient au ministère? Ils ont cliqué sur le lien pour se connecter, pour voir la tête de la fameuse messagerie. Ils ont mis leur pseudo, ils ont mis leur mot de passe. Et pour l'attaquant, qui était de l'autre côté, tout simplement, il a juste récupéré ça et il a pu. Il pouvait avoir accès à l'ensemble des données de la messagerie de ses employés.
Alors ça, c'est pour la technique donc la plus courante. Nicolas Arpagian, selon ce sondage, vient ensuite les attaques par logiciel malveillant ou les rançongiciels. C'est ce qu'on avait pu voir avec WannaCry en 2017. 300 000 ordinateurs infectés en quelques heures dans 150 pays. Il avait notamment touché le secteur de la santé en Grande-Bretagne. Écoutez, Rob Wainwright, directeur d'Europol, l'agence européenne de répression de la criminalité.
Tous les secteurs devraient prendre très au sérieux la nécessité d'effectuer des mises à jour de leur système et de leur protection dès qu'ils le peuvent. Le cas du secteur bancaire est très instructif. Très peu de banques européennes, voire aucune, n'a été affectée car elles ont appris dans la douleur, en tant que cible numéro un de la cybercriminalité, la valeur d'une stratégie adaptée. Et je crois que la santé et d'autres secteurs devraient suivre l'exemple et réaliser qu'il y a là une énorme préoccupation stratégique. Absolutely a huge strategic
concern. Nicolas Arpagian, on parle donc d'un rançongiciel dans le cas de WannaCry. Là aussi, en quelques mots, ça consiste en quoi?
Alors là, vous allez recevoir un message sur lequel vous allez être amené à cliquer parce que il aura l'apparence d'un message familier, d'un établissement bancaire, enfin tout élément qui vous permettrait d'activer le lien ou la pièce jointe qui va être inclus dans le message. Et à ce moment-là, le logiciel malveillant va chiffrer, c'est-à-dire qu'il va rendre illisible un certain nombre des fichiers, voire la totalité des fichiers auxquels il va pouvoir accéder en naviguant dans votre système d'information. Et à ce moment-là, il vous envoie un message qui va être un appel à rançon, c'est-à-dire il faut que vous payiez telle somme avant telle date, sinon je détruis les données. Mmh. Et l'avantage pour le pirate, quel est-il? C'est que c'est un système qui est entièrement automatisé. L'envoi du message vérolé, l'activation par le destinataire, l'envoi à nouveau du message de rançon et la transaction se faisant par crypto-monnaie, alors largement en général des bitcoins, fait effectivement que ça garantit l'anonymat de la transaction. Et c'est très intéressant pour un pirate parce qu'il peut le faire de manière automatisée sans avoir à impliquer des individus de chair, de sang qui sont autant de personnes qu'il faudrait financer et qu'il faudrait convaincre d'avoir cette activité illicite. Et donc, en plus, comme on est dans des montants qui sont en général pas si élevés que ça, en équivalent bitcoin, c'est-à-dire quelques centaines d'euros, 250 euros en moyenne, souvent la victime peut être tentée de payer. Et donc, c'est autant de criminalité qui n'apparaît pas dans les statistiques, puisque pas de dépôt de plainte et donc une relative impunité pour l'attaquant qui bénéficie de toute la facilité du numérique, le caractère international de son attaque et en plus une relative impunité judiciaire.
Julie Gaume, vous avez, pour introduire cette émission, expliqué que la plupart des entreprises n'avaient pas pris conscience du risque. Est-ce que si elles le prenaient en compte, elles pourraient vraiment se prémunir complètement de cyberattaques?
Effectivement, vous parliez tout à l'heure en Afrique, dans le son, d'hygiène numérique, de basiques. Les basiques permettraient, de former les employés qui vont cliquer sur ces liens et se faire avoir par des rançongiciels, de leur apprendre comment les reconnaître, mettre en place des mesures de sécurité, qu'elles soient techniques ou fonctionnelles dans l'entreprise, vont permettre de créer une première ligne de défense. Par exemple, on ferme bien les portes qui sont censées ne s'ouvrir que par badge, on met des mots de passe comme il faut, de la longueur qu'il faut, et on les renouvelle de temps en temps, pas trop souvent, sinon ça décourage les utilisateurs.
Ça veut dire donc qu'on peut se prévenir plutôt que guérir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Julie Gaume, experte en cybersécurité. Et merci Nicolas Arpagian, je rappelle le nom de votre ouvrage Cybersécurité aux presses universitaires de France. Merci à toute l'équipe de décryptage, Éléonore Krenik, Vanna Disfeuille, Simon Carteret et Claude Battista. Tout de suite un nouveau point sur l'actualité.